Podcast La Première.
Bonjour, Jacques-Olivier au micro pour un mémo câblé. Bien sûr, nous sommes de plus en plus nombreux à y avoir recours, dans des fonctions de plus en plus nombreuses et diverses, elles aussi, au point qu'il n'est pas exagéré de parler à son propos de véritable révolution. Il s'agit, vous l'aurez deviné, d'Internet. Le réseau des réseaux est désormais l'objet d'enjeux de toute nature, modifiant, qu'on le veuille ou non, pas mal d'aspects du fonctionnement de nos sociétés et de nos relations. Les discours opposés sont à ce propos fréquents, contenteurs et turiféraires s'affrontent souvent. Mais en somme, Internet est tellement présent aujourd'hui qu'on en oublierait presque qu'il n'a pas toujours été là. Et qu'il a une histoire qui, pour être récente, certes, mérite néanmoins d'être racontée, car elle permet souvent de comprendre certaines attitudes, certains réflexes, certains comportements autour de questions fondamentales qui concernent essentiellement l'opposition liberté-contrôle ou bien encore les contours des sphères publiques ou privées. Nous allons parler de tout cela avec Christophe Lejeune, sociologue, auteur de « Démocratie 2.0, une histoire politique d'Internet ».
Je suis sociologue de formation et je me suis intéressé en tant que sociologue aux nouvelles technologies, donc j'ai fait des recherches à propos de certaines communautés virtuelles. Et pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans ces communautés virtuelles, j'ai été amené à m'imprégner d'une certaine culture, une culture qu'on retrouve notamment sur les forums de discussion sur Internet. Et c'est en faisant état de cette culture à des collègues, lors de discussions, lors de pauses café, que j'ai été amené à me rendre compte que non seulement mes collègues, mais beaucoup de gens autour de moi connaissaient assez mal cette culture, connaissaient assez mal, plus généralement, l'histoire d'Internet. C'est des collègues, c'est lors d'une pause café que des collègues m'ont dit « Mais tiens, tu as énormément d'anecdotes à raconter, et si tu les mettais l'une derrière l'autre pour essayer d'en faire une histoire ?» Et c'est ce que j'avais essayé de faire dans ce petit livre, qui est donc moins un livre de recherche que une volonté de partager une série d'éléments que j'avais glanés avec une série de volontés derrière cet ouvrage qui était d'abord de réagir à une vision très stéréotypée qu'on a de l'Internet. Très souvent, quand je discutais autour de moi de technologies, de nouvelles technologies, d'Internet, j'étais confronté à deux types de réactions très stéréotypées. Certaines personnes qui trouvaient que finalement les technologies allaient nous enlever notre qualité d'être humain, allaient nous isoler, que sur Internet on trouve essentiellement des pédophiles et de l'illégalité. Et puis en face, d'autres réactions qui étaient très optimistes, très enjouées, qui nous disaient bah, « Tiens, Internet, ça va nous permettre de réaliser une démocratie qui fonctionne mieux, Internet c'est le pouvoir rendu au peuple, Internet c'est une vraie égalité de possibilités au niveau de la mise à disposition des moyens de production, avec un argument qui renouvelle presque la culture marxiste. » Et ce qui m'a étonné, c'était que ces deux positions extrêmes se regardaient un peu comme deux camps, et que je ne retrouvais aucune position médiane entre les deux. Et cela m'a étonné. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les deux positions ont une vision presque mythologique de l'histoire d'Internet.
Pour les personnes, oui, mais elles sont, peut-être je vous interromps, mais oui, elles sont presque le produit même de l'histoire d'Internet.
Tout à fait.
Quand on reprend l'enchaînement des choses, on s'aperçoit que pratiquement l'Internet est né à l'origine, je dirais, avec ces deux pieds-là.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que on retrouve effectivement, et c'est ce que j'ai essayé d'aller détricoter dans l'histoire d'Internet, on retrouve ces différentes positions et on pourrait presque trouver les ancêtres des catastrophistes ou des optimistes.
Des irénistes.
Des irénistes, oui.
Entre l'Eldorado démocratique et Big Brother, enfin.
Exactement. Hein, voilà. On peut retrouver comme ça, faire une généalogie de ces deux positions-là. Mais quand on les regarde d'un peu plus près, en même temps, on se rend compte que l'histoire d'Internet n'a pas que deux pieds. Elle en a bien plus que ça. Puisque chez les catastrophistes, grosso modo, on va retrouver une vision de l'Internet créée par l'armée américaine, qui voulait finalement poursuivre essentiellement des fins militaires. Et puis, chez les irénistes, puisqu'on les a appelés comme ça, eh bien, on nous rappelle les campus américains, californiens, de la fin des années 60, le beatnik, le flower power, la contre-culture. Et,
oui, alors, pour reprendre encore une caractérisation peut-être un peu schématique, c'est entre le GI et le hippie, quoi.
C'est ça, c'est
comme ça. Donc, vous présentez les choses.
C'est un peu les deux figures qui sont mises en avant, mais quand on regarde effectivement ce qu'il y a eu, on se rend compte que oui, il y a eu des ancêtres GI de l'Internet, puisque quand on remonte, il y avait effectivement un point de départ qui est une réaction américaine au lancement de Sputnik 1, au lancement réussi, qui a beaucoup étonné et qui a effrayé l'Amérique, qui ne pensait pas voir les Russes leur damner le pion. Et donc, très rapidement, quelques mois après cette réussite russe, les Américains ont créé une agence de coordination des différents départements de recherche, aussi bien dans le privé que dans le public. Une agence qui va dépendre de la défense américaine.
Bon, il faut peut-être préciser quand même, Sputnik c'est 57.
Voilà, le lancement de l'agence c'est 58.
L'association c'est 58. Hein,
c'est 58, oui, voilà, on est fin des années 50. Et cette agence va essayer de coordonner, donc ça va passer notamment par le financement, va coordonner une série de projets de recherche. Parmi ces projets de recherche, parce qu'il y en a beaucoup, va naître un réseau de communication entre les centres de calcul de quelques universités américaines. Et c'est ce réseau de communication qui est l'ancêtre de l'Internet, tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Oui, donc ça, c'est le côté un peu GI.
Mais
en même temps, pas tout à fait. Mm-hmm. Parce que qui va s'occuper de ça?
Alors, évidemment, j'ai dit que c'était une agence qui allait s'occuper de coordination et donc de financement. Mais les personnes à qui on va confier ce développement, eh bien, c'est des universitaires, des physiciens, des gens qui travaillent dans les sciences dites de la nature. On va financer une série de projets de recherche, dont la création de ce réseau de communication entre machines qui calculent, entre ordinateurs, des ordinateurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous avons l'habitude de voir sur notre bureau, voire dans notre poche aujourd'hui. Hein. Il s'agit de grands calculateurs dans les universités.
Ils occupent encore toute la pièce. Hein.
Voilà, exactement. Hein. Ça occupe des pièces et des grandes pièces. Mm-hmm. Et donc, ces personnes, ce sont des universitaires, ce sont des chercheurs. Alors, c'est intéressant de voir que déjà là, on a au moins deux types d'acteurs. On a les militaires et on a des chercheurs. Alors ça, c'est des chercheurs universitaires, mais parallèlement, il y a aussi des recherches qui se réalisent dans les entreprises. Alors, je ne vais pas anticiper encore trop, mais déjà là, on voit que sur notre premier pied, on a déjà au moins trois types d'acteurs. En plus de ça, c'est intéressant de se rendre compte que quand on fait l'histoire un peu mythologique, la version GI, comme on l'a appelé, de cette histoire mythologique, on a l'impression que on a presque le président des États-Unis qui est aux commandes du développement de l'Internet. Enfin, à l'époque, ça s'appelait ARPANET. En fait, quand on regarde qui a travaillé à la mise sur pied de ce réseau, on a confié ça à des doctorants, à des jeunes chercheurs. C'était un projet parmi d'autres. Et ce n'était pas le projet qui était mené par les plus grandes figures de l'époque. C'est évidemment un projet qui va faire parler de lui plus tard, mais sur le moment, c'est un projet parmi d'autres et ce n'est pas le projet qui retient le plus d'attention.
Oui, c'est plus facile d'être visionnaire a posteriori, si je
voilà,
veux dire.
Voilà, exactement, exactement.
Vous avez déjà donc initié le démarrage de cette ARPANET. Hein. ARPA, c'est la fameuse agence
pour la
recherche. Et NET, c'est donc le réseau qui va avec et qui va connecter donc ces ordinateurs, ces machines à calculer. Mais peut-être revenir tout de même beaucoup plus en arrière, parce que c'est vrai quand même que vous commencez dans votre introduction par dire que Internet, c'est une vieille idée d'une certaine manière.
C'est un
vieux projet.
Évidemment,
il n'a pas cette forme-là. C'était difficile à anticiper. Mais tout de même, l'intention de cette interconnexion, cet accès universel au savoir, etc., ça, c'est une idée qui a fait son chemin pendant des siècles.
Oui, tout à fait. Donc, on pourrait remonter très très loin, mais il y a une date qui est bien avant la fin des années 50, qui est reconnue par la plupart des chercheurs qui s'intéressent à Internet aux technologies de l'information et de la communication. Ça nous fait quitter les États-Unis, ça nous fait traverser l'océan et revenir en Europe, et plus précisément en Belgique, puisque la première description de cette interconnexion de différents sites qui contiendraient le savoir, elle est l'œuvre de deux personnes, deux Belges, Henri Lafontaine et Paul Hautelet, qui sont deux juristes de l'ULB, qui vont s'engager sur un grand nombre de fronts. Il faudrait presque toute une émission pour parler de leur projet. Mais Henri Lafontaine sera le plus jeune sénateur socialiste de son époque. Il aura le prix Nobel. Ils s'engageront tous les deux, donc Henri Lafontaine et Paul Hautelet, dans la cause féministe. Ils vont vraiment être des citoyens engagés de leur époque. Et là où Henri Lafontaine est plutôt engagé en politique, Paul Hautelet, lui, a un projet qui lui tient à cœur. C'est l'idée de rendre accessible à un maximum de monde le savoir qui est contenu dans les bibliothèques. Et donc, il va faire toute une série de choses. Il va notamment créer la classification décimale universelle avec Henri Lafontaine, qui est un système de classement des livres dans les bibliothèques qui est encore utilisé dans une série de bibliothèques publiques aujourd'hui. Quand vous allez à la bibliothèque et que vous trouvez sur les étagères une code chiffré, hein, 1.092 ou 3.3.3, eh bien, ces codes chiffrés, elles ont été inventées par ces deux juristes belges. Alors, organisation des bibliothèques en interne, Paul Hautelet va en fait s'intéresser non seulement à l'organisation des bibliothèques, mais à tous les aspects qui touchent au livre, de sa réalisation matérielle, de son classement, de sa conservation. Et aussi, il va réfléchir à la façon dont on pourrait essayer de rendre accessible le contenu de ces livres à un maximum de monde. Dans cette réflexion, il va décrire un système qu'il ne va pas réaliser. Donc, c'est une idée, c'est un projet. Et ce système, il le décrit de la manière suivante. Il dit, on pourrait imaginer que plutôt que d'avoir une table encombrée de bouquins, on ait accès simplement à une espèce d'écran. Et sur cet écran, on pourrait afficher les pages de tous les livres qui seraient contenus dans toutes les bibliothèques du monde. Comment est-ce que ça marcherait? Eh bien, selon lui, on place le livre derrière un dispositif de type caméra et il faut pouvoir piloter le changement de page à distance. Et pour cela, il pense évidemment au télégraphe. Et donc, le dispositif a quelle forme? Sur le bureau, on a cet écran que j'ai déjà mentionné. Et à côté de cet écran, eh bien, on a un petit bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour passer d'une page à l'autre, sur lequel il suffit de cliquer pour passer d'une page à l'autre. On a donc les différents ingrédients de ce qui constitue Internet et le surf sur Internet que l'on connaît aujourd'hui, un écran sur lequel s'affiche le contenu d'une série de pages et le fait de pouvoir passer d'une page à l'autre en cliquant sur un bouton. Évidemment, cette vision nous étonne, tellement elle est proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Paul Hautelet décrit ça début des années 30. Hein. Donc c'est bien, bien avant les premiers débuts de réalisation technique. Mais ce que Paul Hautelet a décrit, évidemment, ne comprend pas l'ensemble des solutions techniques qu'il faudra apporter pour arriver à pouvoir faire circuler cette information dans les tuyaux qui sont, eux, mis en place plus de 20 ans plus tard, dans ARPANET, et c'est là que des ingénieurs, des physiciens, des chercheurs vont s'atteler à essayer de voir comment on peut effectivement faire circuler cette information d'un site à un autre, chose qui était très visionnaire de décrire dans les années 30, mais qui n'était pas une mince affaire.
Mmh. Enfin, bon, hommage est rendu à Lafontaine et à Hautelet au Mondaneum de Mons, hein, oui. Où est conservée une grande partie, mais partie malgré tout seulement, de l'ensemble de colossal de leurs travaux.
Hein. Tout à fait.
Thank you.
Autre personne aussi que vous mentionnez, c'est Alan Turing, qui est donc un Anglais dont on célèbre cette année d'ailleurs le 100e anniversaire de la naissance. Alors c'est un personnage assez extraordinaire, très méconnu, et pourtant c'est un des génies du siècle, selon moi, très certainement, un grand visionnaire, en même temps quelqu'un qui a eu une action extrêmement précise et pratique, parce que, comme Churchill le disait, c'était ceux qui ont permis d'abréger la guerre, très certainement, puisqu'il a décodé le fameux code des Enigma, ces machines allemandes de communication. Mais bref, donc, Alan Turing, voilà aussi quelqu'un qui est visionnaire.
Hein, tout à fait. Ouais.
Parce que, encore une fois, la technologie, les tuyauteries, etc., n'existent pas encore, mais les idées sont déjà présentes.
Oui, donc lui aussi va décrire un dispositif qui ne va pas réaliser techniquement, matériellement, mais il va décrire un dispositif là, qu'on va appeler par après la machine de Turing. Alors c'est un dispositif qui fait un peu sourire lorsqu'on le compare à l'ordinateur. Donc il va décrire un dispositif qui en fait donne les principes de ce qu'est un ordinateur aujourd'hui, mais il ne le décrit pas avec des composants d'ordinateur. Il imagine un ruban qui défile et une tête de lecture qui peut faire des mouvements simples. Et avec ce dispositif extrêmement sommaire, il arrive à décrire ce que sera un ordinateur.
Enfin, ce qu'il se dit, c'est quand un cerveau calcule, qu'est-ce qu'il fait ?
C'est ça.
Et qu'est-ce qui est le minimum, si je puis dire, pour transposer ça dans une machine, quoi.
Ouais. Voilà. Et donc, vous avez lâché le mot, hein, c'est que fait un cerveau lorsqu'il calcule ? Un des autres apports, il y en a beaucoup, mais on a parlé de la machine de Turing qui préfigure ce qu'est un ordinateur. Un des autres apports de Turing, c'est d'avoir essayé de réfléchir à ce que serait une intelligence artificielle, une intelligence machinique. Et donc il va par ailleurs, à côté de cette machine de Turing, imaginer un dispositif expérimental qui essaye d'évaluer ce qu'il faudrait à un ordinateur pour arriver à confondre un être humain, ou plutôt ce qu'il faudrait à un ordinateur pour qu'il puisse se faire passer pour un être humain. Ce n'est pas exactement se faire passer pour un être humain, mais c'est mettre l'être humain qui serait en face de lui dans une position où il ne pourrait pas décider s'il a affaire à un ordinateur ou à un être humain. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif, qui est connu aujourd'hui comme le test de Turing, c'est en fait un dispositif qui est présenté par Turing en deux temps. D'abord, il imagine un dispositif où le sujet de l'expérience doit communiquer. Alors, il communique par écrit pour ne pas entendre la voix, les intonations de la voix qui pourraient lui donner des indices. Ce sujet d'expérience doit communiquer avec, d'une part, un homme, d'une part, une femme. Et la question qui lui est posée, c'est d'arriver à décider où est l'homme et où est la femme. Il doit reconnaître simplement, en communiquant, où est l'homme et où est la femme.
Avec une petite règle supplémentaire tout de même. L'homme, dans ce cas précis, doit essayer de le tromper aussi.
Tout à fait.
Hein.
Voilà.
Donc, ce qui veut dire que chacun peut dire « l'homme, c'est moi ».
Tout à fait.
Ou « la femme, c'est moi ». Enfin,
donc, ça rend la tâche un peu plus compliquée. Alors ça, c'est la première version du test de Turing. La deuxième version, on l'aura compris, eh bien, un même sujet d'expérience est confronté à un ordinateur et un être humain, et il doit décider où est l'ordinateur, où est l'être humain. Alors il y a deux choses intéressantes, et plus qu'intéressantes, assez fascinantes par rapport à l'époque où Turing imagine ce test de Turing. Le premier, c'est la première version du test que l'histoire, en grande partie romancée, l'histoire de l'informatique a complètement oublié, c'est qu'il y a deux tests. Le deuxième test est souvent cité, d'ailleurs un peu en boutade par les informaticiens. Donc les informaticiens, je pense pour la plupart, ont pris leur distance par rapport à l'idée d'une intelligence artificielle et utilisent en fait plutôt le test de Turing pour rigoler entre collègues. C'est-à-dire quand un collègue fait quelque chose, quand un collègue informaticien fait quelque chose d'un petit peu hors du sens commun, on dit de lui qu'il ne passe pas le test de Turing, qui n'était pas au départ fait.
Oui, sauf qu'il y a par exemple, je dirais dans la pratique presque quotidienne d'Internet, quand on vous demande de recopier une petite succession de lettres ou de chiffres un peu mélangées comme ça,
tout à fait.
Bon, mais ça n'est rien d'autre qu'une application peut-être un peu triviale, mais du test de Turing. Hein.
C'est ça, oui. On part du principe que les ordinateurs sont finalement assez mal pourvu pour reconnaître simplement des caractères, ce qui est pourtant une opération assez triviale, mais quand vous discutez avec des chercheurs en traitement du signal, ils vous disent ben finalement, simplement reconnaître des caractères s'ils sont un petit peu tordus, un petit peu floutés, ben c'est pas si évident que ça. Or, un être humain les reconnaît sans trop de difficultés. Et donc, c'est une des applications, en effet. Ce que je voulais dire en disant que les informaticiens ont pris distance par rapport à ce test, c'est l'idée de mesurer ici quelque chose de l'ordre de l'intelligence. Alors, je le disais, les informaticiens ont oublié la première version du test et elle peut nous sembler assez étrange. Pourquoi avoir fait deux tests alors que finalement, le test qui intéresse le développement des sciences qui vont devenir les sciences de l'informatique, le deuxième test est suffisant. Alors peut-être qu'il faut replacer ça dans l'histoire de Turing. Le grand public l'ignore peut-être, mais Alan Turing était homosexuel, ce qui était quand même plus difficile à assumer en Angleterre dans les années 40-50.
C'était même carrément illégal.
C'était carrément illégal. Et donc, le fait de faire une première version du test où il fallait discriminer un homme et une femme permettait de soutenir une autre thèse que celle de l'intelligence machinique, mais qui était que la question de la communication et la question de l'intelligence n'étaient pas une question de sexe, mais une question d'humanité. Donc la thèse qu'il y a derrière la première version du test de Turing, c'est de dire, mais finalement, qu'on soit homme, femme, hétéro ou homo, c'est pas ça qui compte dans une communication humaine. Et alors le fait qu'on ait oublié l'homosexualité de Turing permet de comprendre qu'on a oublié aussi la
première version. Pourtant, c'est difficile à oublier parce que quelques années plus tard, il va se suicider.
Tout à fait.
Enfin bon, il reste une part peut-être de mystère autour de sa mort, peut-être accidentelle, mais très très probablement.
Très vraisemblablement.
Très vraisemblablement un suicide. Et alors, là aussi, je veux dire que quand on parle d'informatique, on ne peut pas ne pas raconter cette histoire. Il est mort en croquant une pomme sur laquelle il y avait. Je ne sais plus le cas du signal des nures ou un poison, enfin bref. Et donc, il s'est empoisonné en croquant la pomme. Et évidemment, on retrouve ce symbole, cette pomme croquée sur des machines qui n'ont pas besoin de présenter davantage. Mm-hmm. Certains y ont vu une allusion. Mm-hmm. Bah, évidemment, l'histoire est trop belle pour ne pas être racontée, mais apparemment.
C'est une légende, apparemment. La difficulté est que si la firme dont on parle avait, comment est-ce que je vais dire,
je cherchais directement à rendre un hommage à Turing, au
tout
fond.
Tout à fait.
Ce n'est pas le cas, apparemment, dans ce qu'elle dit, en tout cas, la firme en question nie.
Ce qui est possible, c'est que la firme en question nie et que les personnes qui ont choisi le symbole l'aient fait en connaissance de cause, puisqu'il y a une vraie culture informatique, j'ai presque envie de dire lettrée, dans cette entreprise qui n'a pas cessé de faire des hommages et des références à l'histoire de l'informatique. Il est possible, mais on est en train de spéculer ici, il est possible que lorsque le logo de cette firme a été choisi, eh bien, on l'a choisi pour plusieurs raisons, dont certaines sont plus faciles à défendre publiquement et d'autres n'ont pas envie d'être endossées parce que peut-être touchant à des sujets trop sensibles pour une firme qui est quand même une des plus grosses firmes aujourd'hui dans l'économie mondiale. Alors si vous me permettez, je vais revenir à l'histoire de Turing parce qu'il y a un des aspects que je ne peux pas ne pas souligner en tant que sociologue. On a parlé de ces deux tests de Turing sur l'intelligence machinique. Ce que je trouve particulièrement étonnant, mais qui me réjouit en tant que sociologue, c'est que lorsque Turing se soit posé des questions en termes d'intelligence, les deux dispositifs qu'il a créés sont des dispositifs de communication de personne à personne. Des dispositifs qui mettent en fait en question l'interaction entre différents êtres humains. Quelqu'un comme Turing, qui avait une culture de mathématicien, de logicien, aurait très bien pu imaginer des tests de calcul, des tests de logique, des tests de manipulation de blocs ou de briques, et la façon dont on mesure le quotient intellectuel, le QI, fait appel à ce genre de dispositif. Turing ne fait pas du tout ça. Et Turing imagine quelque chose de très différent dans les années 50, ce qui était pour le moins là aussi loin d'être conventionnel. Il imagine un dispositif où l'on converse. Enfin, on converse via du papier, où on communique. Et c'est ce qu'il se passe dans l'interaction, ce qui se passe dans la relation, qui doit permettre au sujet d'identifier s'il a affaire à un homme ou une femme, dans un premier cas, ou s'il a affaire à une machine ou à un être humain, dans le deuxième cas. Autrement dit, c'est dans l'interaction que se joue la question de l'intelligence. Au fond, par rapport aux différentes façons d'envisager l'intelligence qui était possible, qui était donnée à Turing, Turing a choisi l'intelligence relationnelle. Et ça aussi, bah, en tant que sociologue, j'ai envie de le souligner.
Et d'une certaine manière, vous dites aussi qu'il a anticipé un peu les gender studies, puisque quand on supprime au fond tous les indices, qu'est-ce qui se passe, quoi,
hein? C'est ça. Il s'est intéressé à la dimension, on va dire, sexuée de notre comportement, qui passe par la réflexion, le comportement, la façon de réagir, en laissant de côté tous les aspects qui vont être l'apparence, l'intonation de la voix, ce genre de choses. Donc quelque part, en effet, c'est un précurseur des gender studies. Alors je ne connais pas assez les gender studies pour savoir s'il est reconnu par les porteurs des gender studies aujourd'hui. Mais à sa façon, dans les années 50, il portait déjà ce genre de thèse. Oui, en effet.
Et pour être complet, et peut-être en terminer tout de même avec lui, il faut signaler que, bon, on a parlé de son suicide, mais son suicide résulte très probablement aussi des perturbations psychologiques et autres qu'a entraîné une condamnation pour homosexualité. Oui. Hein, ou bien c'était la prison ou la castration chimique. Il a choisi la castration chimique, mais ça c'est
manifestement pas
très bien passé. Donc il a fini par se suicider.
Une façon particulière pour l'État anglais de reconnaître ses services pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, mais ça restait secret.
Tout à fait.
Mais bon, on peut faire le lien d'ailleurs avec ce dont on a déjà parlé, et notamment ce Spoutnik Harpanet. On est dans la guerre froide aussi. Turing connaît les secrets militaires. Il a travaillé à Bletchley Park, au service secret britannique pendant la guerre. C'est un des pionniers des ordinateurs. Il a mis au point déjà une machine extraordinaire pendant la guerre pour décrypter. Donc c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Et les Américains apprennent son homosexualité. Tout d'un coup, ça devient difficile d'imaginer un homosexuel qui est au courant. Donc on l'écarte.
Tout à fait.
Il y a le procès qui vient se mêler à ça, etc. Enfin bref, on voit un peu l'enchaînement des choses. Ça arrive au fond à la disparition prématurée quand même de ce qui, selon moi, je me répète sans doute, mais est un des génies du XXe siècle. En tout cas, une des personnalités les plus originales, je dirais. Parce que où va-t-il chercher ses idées, quoi, hein? Je vous rappelle que Christophe Lejeune nous raconte l'histoire d'Internet. Ça permet de refaire le lien aussi, donc ce climat de guerre froide, on l'a dit, donc avec ARPANET, hein, donc la création, en tout cas l'idée de créer un lien entre les machines à calculer, ordinateurs, à la fin des années 50. Il y a autre chose qui se passe aussi de façon concomitante, c'est ce que j'aurais envie de dire, le traitement de texte, de façon générale. Comment classer les documents? Vous avez déjà évoqué Paul Hautelet, que d'ailleurs on commence à reconnaître aussi,
tout
y compris du côté anglo-saxon, qui est quand même assez significatif, me semble-t-il, comme un des précurseurs de cette histoire de l'informatique. Qu'est-ce qui se passe sur ce plan-là aussi? Ça reste difficile.
Tout à fait, oui. Alors, quand on prend la figure qui est décrite par Paul Hautelet, cette figure mêle en fait différentes choses, comme vous l'avez dit. Il y a la façon dont l'information va être véhiculée d'un endroit à un autre, d'un site à un autre, et puis il y a la façon dont elle s'affiche à l'écran. Pour prendre une métaphore un petit peu brutale, il y a les tuyaux, la tuyauterie, et puis il y a ce qui est de l'ordre de l'interface et des liens entre les textes, des liens intertextuels. Alors en fait, les deux histoires vont se rejoindre à un moment donné pour effectivement donner l'Internet et le World Wide Web que nous connaissons aujourd'hui, mais l'époque dont nous sommes en train de parler, donc la fin des années 50, ne connaît pas encore cette rencontre. Et donc, si du côté d'ARPANET, on traite de tuyauterie, c'est-à-dire de façon d'échanger des éléments d'information entre grands calculateurs dans les différentes universités, eh bien, parallèlement à ça, d'autres recherches sont conduites qui, elles, réfléchissent à la façon dont on peut faire des liens entre des textes. Alors, ces recherches, elles annoncent les recherches suivantes, mais elles sont en même temps les héritières d'une tradition. Ce qui va être intéressant ici, c'est la façon dont les chercheurs vont imaginer de faire des liens entre des textes. Puisque quand on surfe sur Internet aujourd'hui, eh bien on utilise beaucoup ces hyperliens, ces mots soulignés de bleu sur lesquels on clique pour aller d'une page à l'autre. Alors, l'histoire de ces hyperliens, comme je le disais, est en partie disjointe, en tout cas dans les premiers temps, de celle des tuyaux dans lesquels passe l'information. Alors, à la même époque que la mise sur pied d'ARPANET, il y a un moment qui est important, c'est la création d'un dispositif par Douglas Engelbart qui utilise des cartes perforées. Alors, ce qui est nouveau, ce n'est pas d'utiliser des cartes perforées, ça existe depuis longtemps, mais il va imaginer une façon de mettre en lien ces cartes perforées. Alors, comment fait-il ? Les cartes en question sont des petits bristoles, des petits cartons sur lesquels l'information est écrite avec des caractères d'imprimerie. Et les numéros de rangement de ces cartes, si vous voulez, sont perforés au-dessus des fiches. Jusque-là, ce n'est pas une invention de Douglas Engelbart. On est dans un système
de mécanographie classique
qui permet de trier des fiches. L'idée d'Engelbart va être toute simple. Il va se dire, mais tiens, si je voulais faire un lien entre deux fiches, eh bien, il suffirait de reporter au bas de la fiche que je veux lier avec une autre les mêmes perforations que celle de l'autre fiche à laquelle je veux la lier. Ainsi, on pourrait, avec les outils de mécanographie, qui utilisent notamment de longues aiguilles, retrouver les fiches qui sont liées à une première fiche en faisant passer les aiguilles dans le bas de la fiche et en trouvant, par tri de cartes, les fiches qui sont liées à cette fiche-là. Ce prototype que crée Douglas Engelbart au début des années 60, il est à la fois l'héritier de certains développements et il annonce d'autres développements. Alors, il est héritier de l'idée de perforer des cartes et il est le précurseur de l'hyperlien. Alors, quand je dis qu'il est l'héritier des cartes perforées, il faut savoir que ça fait longtemps que l'on perfore des cartes pour les trier. Il y a toute la mécanographie classique, mais la mécanographie classique vient elle-même d'un secteur qu'on n'aurait peut-être pas imaginé, qui est le secteur des métiers à tisser.
Mais oui, c'est Jacquard. Hein,
Tout à fait, c'est Jacquard. Et un peu avant lui, au cours du XVIIIe siècle, Basile Bouchon et Jean-Baptiste Falcon, qui vont respectivement, donc pour Basile Bouchon, créer des rubans perforés, et pour le second, utiliser des cartes. Et donc, les cartes perforées vont être utilisées dans le métier à tisser de Jacquard à Lyon, hein, puisque, on l'a dit tout à l'heure pour Paul Hautelet et Henri Lafontaine qui étaient belges, là on est face à des Français. Hein, donc l'idée d'une histoire qui serait purement américaine, on voit ici que les Européens ont aussi contribué à ces développements. Donc de Jacquard à Engelbart, donc on fait un saut de plus de 150 ans, et cette création par Douglas Engelbart d'un lien entre deux fiches en trouant le bas d'une fiche va avoir en fait des conséquences très très importantes pour l'histoire de l'Internet. Parce que en faisant ce qu'il fait, Douglas Engelbart crée en fait un lien qui est directionnel. Le lien part d'une fiche, part du bas d'une fiche pour aller vers le haut d'une fiche. C'est un lien qui a priori ne marche pas dans les deux sens. Il pointe, c'est une flèche qui pointe vers quelque chose. Eh bien les hyperliens aujourd'hui sont aussi des liens qui sont unidirectionnels. Autrement dit, quand on insère un lien dans une page Internet, quand le propriétaire d'une page, le web designer, dit-on parfois, fait un lien, eh bien, il est responsable du lien qu'il crée et le site vers lequel il pointe n'a aucun moyen de savoir qu'on fait un lien vers lui. Si le lien...
Oui, mais enfin, je dirais que le concept est là. C'est de la liaison, de la connexion automatique.
C'est de la connexion automatique. C'est de la connexion semi-automatique, mais le fait que ce soit directionnel va avoir de l'importance pour la suite de notre histoire. Et si ce lien n'était pas directionnel, un moteur de recherche comme Google n'aurait pas aujourd'hui le succès qu'il a, mais j'anticipe un
oui,
petit
oui,
peu.
Oui, on anticipe de beaucoup, là. Mais n'empêche que c'est effectivement aux mêmes périodes que ça se passe, et dans des univers, jusque-là, tout à fait indépendants. Hein,
tout à fait, oui.
Donc, c'est vrai que bon, il y a les automates hein, ou les automatismes d'un côté et il y a l'électronique de l'autre, dirais-je. Et on va vers une rencontre des deux. On y est déjà d'ailleurs à certains égards, hein, dans les grosses machines à calculer électroniques, etc. Dans les ordinateurs, quand il faut programmer, on se demande comment il faut faire, etc. Hein, bon, parce qu'après tout, une fiche perforée pour un métier jacquard, c'est rien d'autre qu'un programme pour une machine.
C'est ça, oui.
Je dirais que les idées sont là, mais c'est la technologie qui change, quoi. Le support technologique qui change.
C'est assez impressionnant de voir que les idées qui sont à la base, les idées fondamentales, les inventions qui sont à la base de l'Internet et du World Wide Web sont là au tournant des années 50-60, hein, puisque ARPANET est fonctionnel tout à la fin des années 50. Et les liens entre les fiches dont on vient de parler sont là au début des années 60. Je pense que c'est en 1962 que Douglas Engelbart va montrer son prototype de mécanographie.
Mais il y a d'autres choses. Hein. Vous parliez de Xanadu aussi dans votre livre. C'est aussi la même, à peu près la même période. Hein.
Tout à fait. C'est la même idée de...
Ou Ted Nelson, par exemple.
De faire des liens entre différents éléments textuels.
Associer des choses. Hein. Ouais. Bon, ceci dit, on voit bien qu'il y a quand même toujours l'idée d'un tri derrière ça, d'un tri précurseur, si je puis dire. Il faut qu'on ait organisé les choses de cette manière-là.
Hein. Alors, vous citez Ted Nelson. Il y a quelque chose qui est intéressant, justement, dans la motivation d'un Douglas Engelbart ou d'un Ted Nelson, c'est que Douglas Engelbart s'intéresse à un problème qui est d'abord technique. Comment vais-je faire pour faire un lien entre deux fiches ? Alors que Ted Nelson s'intéresse à un problème qui est d'abord littéraire. Il a une formation de philosophie et de sociologie et il se dit, mais tiens, dans les sciences humaines, on n'arrête pas de mettre en parallèle des textes, de les comparer, de les confronter, de les citer. Et lui va avoir une motivation qui dit, mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire techniquement pour aider ce travail intellectuel ? Et l'apparition des écrans qui permettent d'afficher du texte, donc on a de nouveau une contribution, je vais dire, du développement technologique, va lui donner des idées sur comment on peut faire des liens, incorporer des morceaux de texte dans d'autres, mettre en parallèle différents textes. Mais c'est intéressant de voir qu'une fois encore, on a une rencontre ou une contribution de différents secteurs de la recherche et de l'inventivité de différentes personnes qui viennent de différents pays, mais qui viennent aussi de différentes disciplines. Pour Douglas Engelbart, il est face à des machines de mécanographie, hein, des espèces de grandes machines à tricoter. Pour Ted Nelson, il réfléchit à la façon dont il peut mettre en parallèle des textes. Et donc on voit que là, il y a une contribution de différentes disciplines intellectuelles à cette invention.
Oui, mais ça, c'est une des caractéristiques que vous soulignez. Hein, au fond, toute cette histoire d'Internet est pluridisciplinaire.
Hein, c'est ça, ouais.
Je crois que c'est une constante qui traverse cette histoire. Mais bon, on a parlé de l'idée d'ARPANET, donc c'est la fin des années 50. La première connexion, apparemment, ce n'est quand même que 1964.
Oui, donc il y a l'idée d'ARPANET. Il faut bien se rendre compte que... c'est ce que je disais par rapport à Paul Hotley. Paul Hotley a eu l'idée de faire circuler de l'information. Il y avait pas mal de défis techniques. Il faut savoir par où l'information va passer. C'est-à-dire, je parlais de tuyaux tout à l'heure. Dans quel tuyau, dans quel fil, comment on va la faire circuler, comment on va la coder à l'entrée, la décoder à la sortie. Et il y a toute une série de créations à faire sur ce que les informaticiens appellent des protocoles. Un protocole, c'est quoi ? C'est un langage particulier que parlent les machines qui leur permet de se comprendre. Si vous me posiez vos questions en chinois et que je ne comprends pas le chinois, je serais incapable de répondre à vos questions. Mais c'est pareil pour les machines. Il faut qu'on les mette d'accord, que les êtres humains les mettent d'accord sur le protocole qu'il faut parler.
Oui, ce qui est loin d'être le cas à l'époque. Hein,
tout à fait.
Parce que je dirais que chaque machine a sa propre langue à l'époque, hein, ou à peu près. Hein.
Oui, chaque machine a sa propre langue. Parce que chaque machine est construite par une entreprise différente. Et même lorsqu'on a des machines qui sont à peu de choses près les mêmes, les entreprises ou les universités vont faire toute une série de réglages qui leur convient, qui convient aux machines qui sont déjà là avant, et qui vont faire que finalement les machines parlent la même langue que leurs voisines directes, mais sûrement pas que des machines qui sont à plusieurs centaines, voire à plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, il y a un travail de mise en commun qui doit être fait pour définir la langue qui va être parlée. Et donc, dans cette histoire de l'Internet, il y a ce moment important, selon moi, qui est la création d'un groupe de travail qui va créer des documents qui s'appellent les appels à commentaires. Le nom est lui-même intéressant, appel à commentaires. Ils n'ont pas appelé ça définition technique de protocole. Ils ont appelé ça appel à commentaires. Donc le groupe qui réfléchissait sur comment faire communiquer des machines faisait une séance de travail, mettait sur papier ce qui leur semblait être la bonne solution, et puis diffusait dans la communauté des chercheurs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de chercheurs.
Oui, ça se passe dans les unifs.
Ça se passe dans les universités. Vont diffuser cette note, cet appel à commentaires, en disant aux collègues, ben voilà, voilà les idées qu'on a eues, si elles ne sont pas bonnes, ben faites-nous d'autres propositions pour essayer d'avoir quelque chose qui soit non seulement fonctionnel, mais qui fonctionne bien. Et si vous avez des idées qui proviennent de vos propres recherches, n'hésitez pas. Alors, c'est intéressant parce que cette façon de fonctionner, qui n'est pas du tout étonnante, vu que c'est des chercheurs qui travaillent entre eux, hein, l'idée de faire circuler une idée et de la soumettre à l'épreuve de validation par les collègues, est tout à fait classique dans la communauté scientifique. Mais le fait d'avoir procédé comme ça, donc d'avoir confié ce développement à des scientifiques qui vont utiliser leur culture scientifique dans la façon de réguler les décisions, va avoir une importance dans, je parlais tout à l'heure de culture, dans la culture qui va être associée au développement d'Internet. Puisqu'on va avoir cette idée que toutes les parties prenantes peuvent avoir leur mot à dire dans la façon dont ça fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire créer une cacophonie, hein, ça veut dire consulter le plus grand nombre avec l'idée qu'il y a plus dans 10 têtes que dans une et que donc en consultant la plupart des gens qui sont impliqués, on aura une solution qui est effectivement une solution qui a plus de chances de fonctionner que si on l'a décidé et on l'imposait de manière unilatérale. Alors, c'est peut-être une version un peu enjouée que je suis en train de donner là.
Oui, parce que ça veut dire que c'est peut-être pas forcément démocratique, c'est peut-être simplement pragmatique.
C'est très pragmatique. Ils sont en train d'essayer de faire communiquer des ordinateurs qui sont dans plusieurs universités. Donc, il faut effectivement que les collègues qui sont à l'autre bout de la ligne ne se sentent pas floués et qu'ils puissent faire valoir leur point de vue. Donc, l'idée, c'est on veut faire communiquer des machines qui sont sur différents sites. Ça veut donc dire qu'on doit essayer de collaborer entre nous. Et donc, la consultation est une règle très pragmatique pour faire fonctionner les choses. N'empêche que ça va avoir une importance qu'il ne faut pas exagérer, mais qui va aussi, à certains moments, être mise en avant, va être utilisée de manière, là peut-être idéologique ou mythologique, comme je le disais tout à l'heure, dans l'idée d'un Internet plus ouvert, plus démocratique, plus délibératif, plus participatif.
Nous poursuivrons ce récit en compagnie de Christophe Lejeune la semaine prochaine. Il est l'auteur de Démocratie 2.0, une histoire politique d'Internet publiée par les éditions du Centre d'Action Laïque. Cette émission a été réalisée par Marie-Noëlle Dumoulin et André Remy. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Retrouvez Mémo le samedi de 17h15 à 18h.
La première.